France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
En plein sommet européen, c'est la fin demain du 8e et dernier cycle de négociations commerciales post-Brexit. Moins de 15 jours pour trouver un accord, sinon ce sera le no deal, dit Boris Johnson. Le politique bloque-t-il l'accord économique ?
Eh bien, c'est ce que beaucoup pensent, tant les négociations ressemblent à une guerre de tranchées ces dernières semaines, à cause de la persistance de plusieurs points de blocage, les aides publiques ou la pêche au seuil de la date fatidique, et puis surtout à cause de la nouvelle loi sur le marché intérieur, cette Internal Market Bill qui torpille l'accord de Brexit, notamment sur l'Irlande du Nord, et que Boris Johnson a justifié par, je le cite, la menace d'un blocus économique européen sur le Royaume-Uni. Stratégie de fou ou bluff, analysent les connaisseurs. Pour les uns, le Premier ministre brandit le no deal comme un levier de négociation face à l'Europe. Pour les autres, c'est un nouveau gage politique pour les ultra-Brexiteurs.
Et les critiques les plus vives sont britanniques.
Eh bien, pas des moindres en tout cas. 5 anciens premiers ministres s'indignent de la perte de crédibilité internationale du Royaume, alors que Boris Johnson brisait les tables de la rule of law, but contre son camp, dit même Gordon Brown, insulte suprême et crime de lèse-majesté. Ces derniers jours ont aussi fait ressurgir le débat sur les coûts du Brexit. Plusieurs économistes britanniques ont estimé la perte de croissance de presque 6 à 8% sur 15 ans, soit 3 fois plus que la Covid. Si Boris Johnson veut remettre, comme il l'a déjà dit, un peu de punch dans les négociations, le bénéfice est moins clair que la sanction.
Pourtant, Boris Johnson pourrait vraiment rechercher un no deal, mais pour des raisons de stratégie économique.
Oui, alors là, on dit souvent que le Royaume-Uni a le plus à perdre, parce que 47% de ses exportations se font vers l'Europe, contre 8% seulement pour l'Union Européenne vers le Royaume-Uni. Mais on compare un pays à un sous-continent, et puis explique Stéphane Madol, même s'il s'agit d'une stratégie pour obtenir plus des Européens, il ne s'agit plus maintenant d'une négociation entre partenaires économiques, mais entre concurrents. Pour Londres, désormais, la compétitivité prime sur l'échange, d'autant plus, ajoute Stéphane Madol, que l'impact social ou économique du no deal pourra être dissimulé en quelque sorte par celui de la crise liée au Covid. Concurrent, c'est d'ailleurs la vision libre-échangiste historique des conservateurs.
Nous n'avons pas repoussé avec succès les frontières de l'État en Grande-Bretagne pour nous les voir ensuite réimposées au niveau européen par un super-État qui dirigerait depuis Bruxelles.
Voilà, c'était déjà Margaret Thatcher, vous l'avez reconnu dans son discours de Bruges en décembre 1988. Cette vision souverainiste se perpétue, elle a même sa Bible coécrite par plusieurs conservateurs de la branche thatcherienne, pro-entreprise en 2012, il s'appelle Britannia Unchained. C'est ce qui exclut finalement toute solution norvégienne, c'est-à-dire hors de l'Union mais dans le marché unique, ou un compromis à la Theresa May, affirme Jill Rutter du King's College de Londres. Et c'est la raison aussi pour laquelle, à défaut d'obtenir le meilleur des deux mondes, comme le dit Barnier, Boris Johnson a une légitimité pour aller jusqu'au no deal.
Plus encore, Xavier, le Premier ministre voudrait faire du Brexit un outil pour la relance.
Oui, c'est ce que soutient encore Jill Rutter. Transformer la Grande-Bretagne en Singapour sur Tamise, peut-être, cependant pas comme un paradis fiscal, mais pour devenir l'État entrepreneur de l'économiste Mariana Mazzucato, qu'elle cite, à la fois donc investisseur, mais surtout pas bureaucrate, raison pour laquelle, dit Jill Rutter, il refuse Boris Johnson d'avoir les mains liées en matière d'aide publique et donc d'adopter les règles du marché européen. Dans le monde toujours, le chercheur belge Philippe Van Paris met en garde. Depuis 2019, Boris Johnson pratique déjà un dumping fiscal et un brain drain intensif sur l'Union européenne avec, dit-il, un gain net de plus d'un demi-million de cerveaux. Manœuvre qui risque de saboter le projet européen, continue-t-il, cette intégrité du marché que défend justement Michel Barnier.
Alors si l'Europe ne bouge pas, le Royaume-Uni peut-il faire des concessions ?
Eh bien le calendrier est serré car l'ultimatum est fixé par Boris Johnson au 15 octobre. Vous l'avez dit, l'Union européenne, elle, a jusqu'au sommet du 17 pour valider l'accord. Mais en 2019, déjà, tout s'était joué à la dernière minute. Et les diplomates européens évoquent dans la presse britannique des négociations en sous-marin qui pourraient durer la semaine prochaine. Ensuite, les Britanniques multiplient les accords de libre-échange. 5 déjà cette année, dont un avec le Japon, une dizaine en pourparlers, notamment avec les États-Unis. Londres, qui vise 22 accords pour couvrir 80% de ses échanges actuels, pourrait vouloir conclure à assez vite avec l'Europe. Quant à la pêche, dont l'Union européenne fait effectivement un casus belli, l'accord hier avec la Norvège est peut-être un message. Premier accord de pêche en 40 ans, souligne Londres, et à la différence du système européen, les quotas et l'accès mutuel aux zones de pêche seront renégociés chaque année. Le même jour d'ailleurs, Londres a fait un pas en proposant à Bruxelles une période de transition de 3 ans pour trouver une régulation sur ce sujet. Alors sans être trop optimiste pour ce 8e cycle de négociations, le poète ne dit-il pas qu'à la 7e fois, les murailles tombèrent. Et puis mardi, The Economist a prévenu, les Français seront les négociateurs les plus coriaces. Voilà qui met du baume au cœur.
Eh bien, double merci Xavier Martinet, on vous retrouve mardi pour un nouveau Journal de l'Écho.